Vous écoutez, on lit pour vous.
Négligence dans une résidence du CIUS. On dirait un mauvais film de prison. Un texte d'Emmanuel Vérité-Lapointe, paru le 18 septembre 2025 dans La Voix de l'Est. Une famille cherbrouquoise a vécu l'enfer alors que leur fils présentant un trouble du spectre de l'autisme et une déficience intellectuelle était hébergé dans une résidence à assistance continue, RAC, de Sherbrooke. Confinement à sa chambre toute la journée, refus du personnel d'utiliser les outils de communication appropriés et même tentative de contention chimique. La liste des événements s'apparentant à de la négligence est longue. Une résidence à assistance continue, RAC, est un milieu de vie qui vise à réadapter des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle et qui présentent un trouble grave du comportement. Pourtant, selon Nicolas Pépin, son fils n'a pas été réadapté du tout, bien au contraire. Le père estime que l'état de son fils s'est vivement dégradé lors de son séjour dans une RAC qui a duré environ un an. Son fils de 17 ans, au moment des faits, a été hébergé à la RAC Lisieux à Sherbrooke d'août 2024 à juillet 2025. Convaincu au premier abord qu'il s'agit d'un bon milieu, M. Pépin désenchante rapidement. Les comportements agressifs et violents de son fils augmentent au fil des mois au point où il n'est plus possible pour lui d'aller à l'école, ce qu'il faisait sans problème auparavant. Étant non-verbal, le jeune homme communique par écrit. Il a également besoin de pictogrammes et d'un horaire plastifié pour suivre le fil de sa journée. Ces outils ont été recommandés par des intervenants du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement, CRDI-TED, et fonctionnent très bien depuis des années. Toutefois, le personnel de la RAC Lisieux refuse de les utiliser, selon Nicolas Pépin. Sans ça, il n'a pas la capacité mentale de prévoir une journée et pour lui, c'est extrêmement anxiogène. Et c'est très simple à mettre en place comme mesure, explique le frère du jeune homme, Lou-Siméon Pépin. Un jour, Nicolas Pépin découvre avec stupeur le visage tuméfié de son fils en allant lui rendre visite. Le jeune homme autiste se frappe la tête lorsqu'il est anxieux et qu'il n'arrive pas à communiquer ses besoins. Pour le père, il est évident que ses comportements sont directement liés au fait que les outils de communication nécessaires ne sont pas utilisés à la RAC. Après de nombreux courriels envoyés à l'équipe de la RAC, plusieurs rencontres et même une plainte au commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUS de l'Estrie CIUS, Nicolas Pépin était découragé de ne voir aucun changement dans la prise en charge de son fils. La directrice adjointe des programmes en déficience au CIUS de l'Estrie CIUS, Julie Pearson, ne peut pas commenter de cas précis, mais elle indique que toutes les recommandations reçues ont été mises en place dans les situations où on a eu des recommandations. Elle explique également que les employés ont du soutien pour assurer la qualité des services. On a des gestionnaires qui sont présents sur les lieux. On a aussi des responsables d'unité de vie qui sont là pour soutenir et coacher les intervenants. Si l'équipe ne met pas en place certaines recommandations, on va aller voir ce qui fait qu'elle ne les met pas en place et on va s'assurer de les soutenir pour qu'elle les mette en place par la suite. Comme un tigre dans une cage. À part l'enjeu des outils de communication, plusieurs autres événements ont grandement inquiété la famille Pépin. Le séjour du jeune homme à la RAC Lisieux a provoqué une hausse de ses comportements violents. Conséquence, le personnel avait peur de lui, ce qui augmentait à nouveau les comportements problématiques. Ainsi, il était parfois confiné dans sa chambre des journées entières, assis par terre, à dessiner comme seule occupation. Ça le rassure de savoir qu'il y a quelqu'un proche de lui. Il ne peut pas vivre avec une porte fermée. À Lisieux, il a été embarré dans sa chambre à tourner comme un tigre dans une cage, s'indigne Nicolas Pépin. Ses vêtements étaient souvent sales, sa peau parasée, mais une des choses qui me marquait à chaque fois, c'est que les intervenants et les autres usagers étaient assis dans le salon et les intervenants étaient sur leur téléphone. Je n'ai pas vu ça une fois ou deux, mais à chaque fois. Les intervenants sur leur téléphone et mon frère dans sa chambre, la porte fermée, ajoute Lou Siméon Pépin. Il nous faisait des dessins sur lesquels c'était marqué « Déménager RAC Lisieux ». Il écrivait ça en gros. Interrogée par la tribune, Mme Pearson affirme que les situations rapportées en lien avec la santé, la sécurité et le bien-être des usagers sont prises au sérieux par le CIUS. Quand on nous met au courant de certaines situations, on s'assure de se mettre en action pour corriger les situations qui pourraient peut-être nuire au bien-être des usagers. Pour nous, c'est très important. Des blessures à répétition. L'anxiété qu'a vécu le jeune homme autiste à la RAC s'est souvent traduite par de l'automutilation. Monsieur Pépin a retrouvé plusieurs fois son fils avec des blessures au visage et à la tête. Sur un rapport, j'ai vu qu'il s'est donné plus de 200 coups de genou dans le front. Ça dure combien de temps, ça? On dirait un mauvais film de prison avec des gardiens corrompus. Les problèmes à la RAC se sont enchaînés, allant même jusqu'à une tentative de contention chimique. Selon des informations confirmées par la tribune, le personnel de la RAC a fait une demande de médication pour endormir le jeune homme, disant qu'il se levait trop tôt. En fait, l'usager dormait un nombre normal d'heures. Il se levait tôt parce que les employés l'envoyaient se coucher à 19 heures. Pour Nicolas Pépin, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une tentative de rendre son fils légume pour rendre la tâche plus facile au personnel. Des employés à court de ressources. Le représentant national de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, APTS, de l'Estrie, Danny Roux, est d'avis qu'une situation comme celle qu'a vécue la famille Pépin s'explique notamment par le manque de ressources du personnel. Selon lui, bien des employés affirment vouloir donner de meilleurs services alors qu'ils estiment manquer de moyens pour le faire. Les employés doivent composer avec les difficultés du métier et le peu de ressources allouées au RAC. Par exemple, des bris de service pendant lesquels aucun éducateur ne se trouve sur les lieux surviennent souvent dans les RAC du CIUS. Cela devient alors très difficile de réaliser la mission première de ces milieux, réadapter les usagers. Aussi, le personnel ne reçoit pas nécessairement tous les outils nécessaires pour accomplir son travail. Notamment, la formation Omega permet de comprendre comment gérer les comportements agressifs qui peuvent survenir. Julie Pearson affirme cependant que tous les nouveaux employés la reçoivent. C'est une formation obligatoire pour travailler dans une RAC. Chaque employé a un plan de formation de développement de compétences à l'arrivée. La formation Omega fait partie de ce plan-là. Danny Roux pense autrement. Il y a certains agents d'intervention qui se faisaient critiquer de ne pas faire les bonnes interventions, mais ils n'avaient même pas eu la formation Omega. C'est la même chose pour un auxiliaire aux services de santé et sociaux ou un éducateur. Nicolas et Lou Siméon Pépin ont observé la même chose. Souvent, les employés nous partageaient secrètement qu'eux-mêmes se plaignaient de ne pas avoir assez de formation, relate Lou Siméon. Aujourd'hui, le fils de Nicolas Pépin est hébergé dans une autre RAC du CIUS de l'Estrichus où les choses sont bien différentes. Présentement, mon fils est redevenu un garçon taquin et plein de joie, ce qu'on n'a pas vu depuis un an. C'était « Négligence dans une résidence du CIUS », on dirait un mauvais film de prison. Un texte d'Emmanuel Vérité-Lapointe, paru le 18 septembre 2025 dans La Voix de l'Est.
les jeunes des régions ont moins de chances d'aller à l'université, un texte de Joanie Gaudreau, paru le 16 septembre 2025 sur le site de Haute-Côte-Nord. Si un jeune défavorisé vit dans une région éloignée comme la Côte-Nord, ses chances d'aller au cégep ou à l'université sont beaucoup plus minces que s'il restait dans une grande ville. Les jeunes de la Côte-Nord et d'autres régions rurales du Québec accèdent nettement moins aux études postsecondaires que ceux des milieux urbains, particulièrement lorsqu'ils proviennent de familles défavorisées. C'est l'un des constats majeurs du bulletin de l'égalité des chances en éducation, publié à la fin août par l'Observatoire québécois des inégalités. Selon l'étude de plus de 200 pages, seulement 14 % des jeunes hommes et 31 % des jeunes femmes issues de familles défavorisées de la Côte-Nord poursuivent des études collégiales. À titre comparatif, dans les régions urbaines comme Montréal ou Laval, ces proportions atteignent 46 % pour les garçons et 67 % pour les filles. Donc, pour les jeunes hommes défavorisés, si on est en milieu urbain, on a deux fois plus de chances que les jeunes hommes défavorisés d'accéder au collégial quand ils sont en milieu rural. C'est vraiment une grosse différence, souligne le professeur et co-auteur du bulletin, Xavier Saint-Denis. Des inégalités marquées. Le bulletin met en lumière trois facteurs qui contribuent à ces écarts. D'abord, la dimension financière. Déménager pour étudier dans une grande ville entraîne des coûts importants, souvent laborieux à assumer pour des familles déjà en difficulté. Ensuite, l'offre limitée de programmes collégiaux et universitaires en région pousse les jeunes à privilégier des formations techniques ou professionnelles liées au marché local. De plus, l'absence de parents ayant fait des études post-secondaires réduit le soutien et l'accompagnement nécessaires pour franchir cette étape. Un parent qui a un diplôme universitaire est probablement déjà passé par cette étape où il a dû déménager pour étudier à l'extérieur, explique le chercheur. Il est plus familier avec cette étape du parcours de vie du jeune et il peut plus le guider dans le processus, ce qui va beaucoup aider. La Côte-Nord parmi les plus touchés. En regroupant les données de la Côte-Nord et du Nord du Québec, les chercheurs constatent que ces régions se situent parmi les 6 plus faibles du Québec pour l'accès aux études collégiales, avec un taux global sous la barre des 40 %. À titre comparatif, la moyenne provinciale se situe entre 83 et 85 % pour les jeunes de familles favorisées. La situation s'explique aussi en amont. Le taux de diplomation secondaire dans la région est de 74 % alors qu'il atteint 82 % pour l'ensemble du Québec et 83 % à Montréal. Ce qui se passe très tôt dans les parcours des jeunes a un impact plus tard dans leur vie. C'est un bon exemple, rappelle M. Saint-Denis. L'étude soutient que les écarts d'accès aux études supérieures trouvent souvent leur origine bien avant le cégep. La fréquentation de la maternelle est pourtant répandue dans la région, mais l'accès aux services de garde éducatifs reste inégal. La Côte-Nord affiche un déficit de places en CPE par rapport à la moyenne québécoise. Un autre facteur relevé par le bulletin concerne l'offre scolaire au secondaire. Contrairement à la grande région de Montréal, où on retrouve une large offre, la Côte-Nord dispose d'une seule école privée, soit l'Institut d'enseignement de cette île, IESI. Cette situation entraîne une expérience plus uniforme dans les écoles publiques régionales, où les élèves issus de milieux favorisés et défavorisés se côtoient davantage. Selon les auteurs, cela pourrait limiter certains types d'inégalités scolaires, mais elle réduit aussi le choix pour les familles qui souhaitent orienter leurs enfants vers des parcours différents. Des pistes de solutions. Le bulletin propose certaines avenues pour réduire les inégalités, améliorer le soutien financier aux étudiants, diversifier l'offre de programmes dans les antennes régionales des universités et cégeps, ou encore élargir la formation à distance. Toutefois, le chercheur souligne que l'enjeu dépasse l'éducation puisque le marché du travail influence aussi le choix des étudiants. Un jeune qui veut rester dans sa région, peut-être que son projet d'études, ça va être plus un projet de DEP ou de DEC pour aller acquérir une formation pour laquelle il y a de la demande locale. On voit que sur la côte nord, la formation professionnelle est assez populaire. Il y a quand même un lien avec les choix que prennent les jeunes. Le bulletin de l'égalité des chances en éducation est conçu pour servir d'outil aux décideurs, aux établissements scolaires et aux organismes régionaux. Pour la première fois, il présente des données détaillées par région, ce qui permet de mieux cibler les besoins locaux. Les résultats seront présentés lors d'un webinaire le 25 septembre, réunissant des intervenants de différentes régions du Québec. C'était « Les jeunes des régions ont moins de chances d'aller à l'université », un texte de Joanie Gaudreau, paru le 16 septembre 2025 sur le site de Haute-Côte-Nord.
Un véhicule adapté disponible en autopartage. Un texte de Mark Bryson, paru le 17 septembre 2025 sur le site de l'Express.ca. Les personnes à mobilité réduite de la région peuvent bénéficier, depuis récemment, d'un service de transport adapté unique grâce à l'arrivée de l'autonome, une mini-fourgonnette qu'elles pourront réserver pour leurs déplacements en compagnie de leurs proches. Ce service devient une alternative complémentaire aux offres déjà existantes en transport adapté, qui ne sont pas toujours très flexibles en termes de disponibilité. Pour remédier au manque de transport adapté en région, l'Association des parents d'enfants handicapés de Drummond, APEHD, a soumis un projet dans le cadre du défi Innovation Québec en économie sociale. Un financement de 32 826 $ a été octroyé. L'APEHD aura eu besoin de plusieurs mois pour mener à terme le projet de transport en autopartage. Un travail effectué en compagnie d'un comité et de quelques partenaires dont les pôles d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil et du Centre du Québec et la Fondation Intervalle du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec, CIUS-MCQ. La Fondation Intervalle œuvre pour améliorer l'autonomie et la qualité de vie des personnes ayant une déficience physique en région. Grâce à un déjeuner bénéfice, l'organisme a pu remettre la somme de 5 300 pour soutenir l'autonome. La camionnette a été acquise d'une dame en fin de vie de la région de Québec. Esther Maresseau-Langlois, aquarelliste bien connue au Québec, a accepté de céder son véhicule adapté pour moins de 40 000 $, alors qu'il vaut plus du double, selon Julie Desgranges, directrice générale de l'organisme. L'artiste a aussi fait don d'une de ses toiles à l'APEHD. Qui peut utiliser l'autonome? les personnes à mobilité réduite ou leurs conducteurs peuvent adhérer au service de l'autonome. L'une ou l'autre de ces personnes doit être résidente du centre du Québec. Le véhicule adapté peut accueillir deux fauteuils roulants ou deux passagers et un fauteuil. Une formation est donnée aux conducteurs avant la première utilisation dans le but de leur expliquer comment sécuriser les fauteuils et leurs occupants dans le véhicule. Une capsule de cette formation sera aussi disponible sur le site web de l'APEHD. Il en coûtera 30 $ pour devenir utilisateur du service de transport adapté d'autopartage, une somme qui sera versée une seule fois contrairement à un abonnement annuel. Après avoir réservé le véhicule, les utilisateurs devront débourser 15 $ de l'heure d'utilisation. Grâce à la plateforme de réservation en ligne de l'entreprise Sauvé, qui se spécialise en covoiturage et autopartage, toutes les étapes peuvent être franchies au même endroit. Inscription, réservation, prise de possession, déverrouillage des portières et le démarrage du véhicule peuvent se faire à même l'application. Le tout premier usager de l'autonome et également membre du comité menant à ce projet, Yves Proulx, a mentionné lors du lancement officiel du véhicule que les prix d'utilisation sont beaucoup plus raisonnables et adaptés à son budget personnel. L'homme, qui est aujourd'hui incapable de conduire, doit se rendre régulièrement à des rendez-vous médicaux avec son chien d'accompagnement, Roxy. Un déplacement vers Trois-Rivières peut lui coûter jusqu'à 400 $, alors qu'il peut se rendre à ce même rendez-vous avec l'autonome pour moins de 200 $. Grâce à ce nouveau transport, M. Proulx croit même pouvoir prendre des vacances, ce qu'il n'a pu faire très souvent faute de budget. La naissance du service de transport et d'autopartage suscite la curiosité d'autres régions au Québec, comme l'a mentionné Julie Desgranges, confirmant avoir eu des appels d'organismes de l'Abitibi-Témiscamingue et de Québec. Pour assurer la continuité de l'autonome, l'APEHD organise une soirée country qui se tiendra le 3 octobre prochain à la salle du Club de l'Âge d'or située sur la rue Saint-Marcel. C'était « Un véhicule adapté disponible en autopartage », un texte de Mark Bryson paru le 17 septembre 2025 sur le site de l'express.ca.
Un métal qui influence le développement de la maladie d'Alzheimer. Un texte de Richard Béliveau, paru le 14 septembre 2025 dans le Journal de Montréal. Une étude montre que les cerveaux de patients touchés par la maladie d'Alzheimer contiennent des quantités anormalement basses de lithium, ce qui suggère que l'utilisation de nouvelles thérapies de remplacement par ce métal pourrait améliorer la prévention et le traitement de cette maladie. Le carbonate de lithium est utilisé depuis près de 200 ans pour le traitement du trouble bipolaire, ce qu'on appelait autrefois la maladie maniaco-dépressive. Ce trouble de l'humeur, qui touche environ une personne sur 100 dans le monde, peut se transformer en un cycle incessant de hauts et de bas émotionnels qui, s'ils ne sont pas traités, empêchent le fonctionnement normal des individus et haussent considérablement le taux de suicide. 10 à 20 fois supérieur à celui de la population générale. Ce risque est cependant drastiquement réduit grâce au traitement au lithium. Le mécanisme biochimique exact responsable de son impact positif sur les processus mentaux demeure mystérieux, mais implique probablement une modulation des canaux ioniques dans les membranes des neurones, permettant la transmission de l'influx nerveux qui est responsable des activités cérébrales. Ce métal demeure un médicament indispensable au traitement de nombreuses personnes affectées par un trouble de l'humeur. Bénéfices additionnels. Plusieurs études réalisées au fil des années suggèrent que les bénéfices du lithium ne seraient pas restreints au traitement des personnes bipolaires. Par exemple, on a observé que le traitement au lithium de personnes affectées par un déclin cognitif étaient associés à une amélioration de leur mémoire et retardaient la progression vers la maladie d'Alzheimer. On a aussi observé que les personnes bipolaires traitées au lithium présentaient un risque significativement réduit, 40 % de développer la maladie d'Alzheimer, un effet protecteur qui n'est pas observé pour d'autres médicaments utilisés pour le traitement de ces patients, antiépileptiques, antidépresseurs ou antipsychotiques. Déficience en lithium. Une étude récente d'une grande importance permet de mieux comprendre les effets positifs du lithium sur les processus cognitifs et la prévention des neurodégénérescences. Dans cette étude, les chercheurs ont mesuré les concentrations de 27 métaux distincts dans le cortex préfrontal, une région très affectée par la maladie d'Alzheimer, et le cervelet, région non affectée par la maladie et qui a servi de contrôle. En comparant les mesures réalisées sur des cerveaux sains, des cerveaux affectés par un déclin cognitif ou encore par la maladie d'Alzheimer, ils ont observé que le lithium était le seul métal qui diminuait significativement dans le cortex préfrontal des cerveaux provenant de personnes malades atteintes de déclin cognitif ou de la maladie d'Alzheimer. Déclin cognitif. En utilisant un modèle de souris prédisposée à développer la maladie d'Alzheimer, les chercheurs ont montré qu'une réduction drastique de la quantité de lithium dans le cerveau, en éliminant le métal de la nourriture des animaux, augmentait drastiquement la formation d'agrégats des protéines bêta-amyloïdes et tau, deux types de dépôts typiquement observés dans le cerveau des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ceci s'accompagne d'une forte réaction inflammatoire qui mène à une perte des connexions interneurones, synapses, et à une accélération du déclin des fonctions cognitives. À l'inverse, lorsque les animaux sont traités avec un composé de lithium qui améliore sa biodisponibilité, orate de lithium, on observe une diminution marquée de l'apparition des dépôts d'amyloïdes et de tau et une préservation des fonctions cognitives des animaux. Ces observations suggèrent que des perturbations du métabolisme du lithium pourraient représenter une étape précoce du développement de problèmes cognitifs menant à la maladie d'Alzheimer. Corriger cette déficience à l'aide de thérapies de remplacement par le lithium pourrait donc représenter une nouvelle approche prometteuse dans notre combat contre ces maladies incapacitantes. C'est là un progrès important de la science. C'était Le lithium, un métal qui influence le développement de la maladie d'Alzheimer, un texte de Richard Béliveau, paru le 14 septembre 2025 dans Le Journal de Montréal.